Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.
Bonjour Paul Jolie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes architecte de profession, mais vous êtes surtout maire adjoint chargé du logement et de l'inclusion et de la ville de Saint-Germain-en-Laye. Merci de votre présence ce matin. Nous avons eu le plaisir, figurez-vous, avec mon équipe, de faire notre séminaire d'entreprise dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye il y a peu de temps. Et nous avons donc marché aussi un peu dans votre ville. Et c'est en effet une très, très belle ville, extrêmement connue par les franciliens, avec un nom dans le football qui marque tout le monde. Mais aujourd'hui, comment vous situez-vous dans une ville, justement, qui est à côté d'une forêt comme celle-là, qui a, je crois, 23,14% de logements sociaux? Est-ce qu'avec aujourd'hui cette non-artificialisation des sols, vous allez devoir repenser la ville différemment pour accueillir peut-être de nouvelles populations? Et est-ce que le logement locatif social est-il toujours un outil de mixité sociale à Saint-Germain-en-Laye?
C'est vrai que c'est une question essentielle et je dirais que finalement, l'État répond quand même de moins en moins à cet aspect universaliste de la loi et plus à la gestion de la précarité et Saint-Germain-en-Laye également, finalement. Et là où l'État voudrait de plus en plus de logements sociaux, il les finance de moins en moins. Donc, on est vraiment confronté à ce besoin toujours plus important de demande de logements sociaux avec une offre finalement qui est assez faible. Et si on regarde Saint-Germain-en-Laye, aujourd'hui en 2020, je dirais 2020-2021, c'est environ 4300 un peu plus de logements sociaux répartis sur la ville. Alors répartis uniformément, avec la particularité, vous venez de le citer, de la ville de Saint-Germain-en-Laye où c'est pratiquement, je dirais, 2/3 de forêt et 1/3 de concentration ville urbaine.
Mais je note déjà quelque chose d'intéressant dans ce que vous avez dit, c'est réparti uniformément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un quartier social et le reste.
Alors,
c'est important.
Si. Alors, quand je dis c'est réparti uniformément, j'ai dit plus ou moins uniformément. C'est-à-dire qu'on a du logement social en centre-ville, on en a pratiquement dans l'ensemble des quartiers, et on a quand même des quartiers un peu plus concentrés en logements sociaux, et notamment un quartier qui est appelé ou qui a été dénommé ZUP, zone à urbaniser en priorité du Bel Air, c'est la fameuse politique de la ville des années 60 aux années 70, avec justement ces concentrations de logements sociaux. Donc on n'a pas échappé à cette ZUP, avec cette particularité qu'on est à Saint-Germain-en-Laye la dernière ZUP d'Île-de-France. Après, on ne construisait plus de concentration sous cette forme-là de logements sociaux. Donc ça, c'est vrai qu'on a à peu près un millier de logements sociaux sur cette zone-là, sur les 4300 répartis sur la ville. Alors, c'est vrai que quand on regarde aussi, par exemple, les demandes de logements sociaux à Saint-Germain-en-Laye, vous êtes à environ 6000 demandes de logements sociaux.
Pour combien de places disponibles par an? Parce qu'en fait, la grande difficulté en Ile-de-France, c'est le peu de turnover, en fait.
Et ben voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que sur le contingent si je prends que le contingent de la ville, l'ensemble des logements sociaux, puisqu'il y a plusieurs contingents, préfecture, action logement, les bailleurs, contingent de la ville, c'est également un millier de logements sociaux. Et on a un turnover annuel d'environ 50 logements sociaux.
Oui, donc ça fait beaucoup de gens qui frappent à la porte pour que 50 places par an, en tout cas pour votre contingent à vous. Et j'imagine que le pourcentage du contingent des autres est à peu près le même en nombre de places disponibles.
Ben exactement, et puis on a des fléchages aujourd'hui de plus en plus importants qui sont liés à la précarité, aux violences familiales, au handicap, donc qui sont fléchés par la préfecture, c'est le fameux droit au logement d'Allo, et puis de plus en plus de familles monoparentales, de personnes seules, de plus en plus de personnes à revenus bas, précaires, qui relèvent des premiers taux de loyer, je dirais de l'ordre de 60%, 60 à 62% à Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est très important, donc on est vraiment dans un peuplement d'urgence, finalement, qui pénalise très fortement la mixité, si telle était la question d'origine.
Et comment on fait face à cet équilibre difficile, finalement, dans la création du logement social, et comment vous le voyez dans les années qui viennent? Éventuellement, un petit retour en arrière sur les 10 dernières années et les 10 à venir, dans la façon dont vous avez accompagné cette progression.
les 10 dernières années, nos différents élus, maires, ont eu cette volonté d'aller vers le logement social et donc de répondre d'ailleurs à la fameuse obligation de la loi SRU, hein, des fameux 25% en 2025.
Vous y êtes pas loin. Vous y serez d'ailleurs. Non. Avec 23,14, vous y serez, ouais, en 2025.
Oui, on y sera. C'est pas, ça ne pose pas de difficultés à ce niveau-là. C'est pas vraiment le souci. Le souci, c'est un coût du foncier de plus en plus important. C'est une rareté de ce foncier. C'est la réticence aussi d'un certain nombre de citoyens face à la création de logements sociaux. C'est les sanctions aussi, malgré tout, qui sont liées à cette loi SRU par rapport à la non-réalisation de logements sociaux. Donc, vous avez malgré tout des bailleurs sociaux qui s'engagent pratiquement plus dans la construction de programmes spécifiques en fait de logements sociaux. Ils vont plutôt acquérir des logements de type VEFA dans des opérations fléchées. Et vous allez voir que là, c'est assez complexe parce que ils vont acheter des logements à des promoteurs, une partie des logements, mais ces promoteurs vont pas forcément au niveau de ces logements créer du logement avec pour des bas niveaux de loyer, c'est-à-dire le fameux PLAI. Ils seront plutôt vers des loyers un petit peu plus hauts, du type PLS. Tout ça, vous en avez quand même certains qui vous disent on leur pose la question pourquoi. Bon, on vous répond quand même encore aujourd'hui parce que ça risque de dévaloriser l'autre partie du programme. Donc,
oui, ils essaient trouver des équilibres d'urbanisme, voilà. Mais ça ne répond pas nécessairement aux besoins des populations, c'est ça que vous êtes en train de me dire.
Exactement, donc ça peut créer des disparités importantes, parce que, par exemple, nous, on pense vraiment, par exemple, aux jeunes actifs, qui relèvent du logement social pour la plupart d'entre eux, en tout cas dans le début de leur vie, et ils seront plus prêts à obtenir un logement en PLAI, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, qu'en PLS. Et pourtant, l'offre, elle va plutôt se faire sur du PLS, qui est, alors que sur les catégories inférieures, c'est pas inférieur en termes de qualité, bien sûr, quand même, il faut dire.
Vous pensez qu'il faudrait repenser la conception des logements, peut-être en direction des jeunes, plus petits, plus accessibles, par rapport à ce qui se fait par ailleurs dans le logement social, pour toucher en effet ces jeunes qui vont démarrer à travailler, qui sont bien sûr éligibles au logement social, comme d'ailleurs un grand nombre de Français, puisque je crois qu'on est à 70% éligibles aujourd'hui.
Exactement.
Comment aider ces jeunes à rester sur la ville ou à rajeunir aussi la ville.
En fait, il y a deux questions dans votre question. Il y a la première sur comment effectivement pouvoir améliorer l'offre vis-à-vis de ces publics. Et ça, c'est vraiment une action vis-à-vis des acteurs, hein, du logement social, des constructeurs, des promoteurs aujourd'hui, parce qu'on voit que ce sont plutôt eux qui vont proposer ces fameuses ventes en état futur d'achèvement qui vont être en partie prises en compte et acquis par les bailleurs sociaux. Et ça veut dire que là, il faut vraiment qu'il y a une discussion, c'est ce qu'on essaye d'entamer, nous, à notre niveau, systématiquement dans les opérations de construction, avec les promoteurs, pour faire comprendre qu'on a des répartitions, voire même par quartier, qui ne sont pas forcément identiques. Il faut aller vraiment chercher la discussion, la relation, la transversalité. Et ça, c'est vraiment très, très important.
Après, et avec les architectes en amont, puisque vous l'êtes vous-même aussi. Donc, c'est vrai qu'on sent de plus en plus le besoin d'un dialogue social. Vous disiez tout à l'heure que vous considériez qu'il y a une moins grande acceptabilité de la construction du logement social, mais est-ce qu'elle n'est pas une moins grande acceptabilité de la construction de logements tout court? On sent aujourd'hui de plus en plus de réticence en Île-de-France à construire tout simplement dans pas mal de mairies, malheureusement.
Oui, c'est vrai, parce qu'on veut de plus en plus déminéraliser les sols, on veut de plus en plus de verdure, on veut de plus en plus finalement être presque propriétaire, je dirais, de son lot isolé, de son pavillon avec son petit bout de terrain. La crise Covid n'est pas neutre dans tout ça non plus. Mais une ville, c'est fait pour être habitée, c'est fait pour vivre. Donc une ville, par essence, ça grossit, ça se construit. Oui, c'est vrai que les équilibres sont pas faciles. Donc, c'est une réflexion vraiment de plus en plus globale et de plus en plus transversale et dans laquelle on fait participer, pour moi, en tout cas, c'est une vraie nécessité de plus en plus le public d'usagers. On a trop construit pour vivre, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment construire des unités de vie à vivre.
Est-ce qu'il est possible, selon vous, d'améliorer l'image d'un quartier à forte concentration de logements locatifs, comme celui que vous citiez tout à l'heure, à partir du bâti existant, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cela?
Oui, ça c'est vraiment une très important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout détruire et tout reconstruire. Alors c'est vrai que dans le logement social, on a une échelle de construction des immeubles des années 50 aux immeubles réalisés aujourd'hui. C'est pas les mêmes normes. Et donc, dans des quartiers existants, on peut effectivement... en tout cas, il faut suivre cette population, il faut l'aider, il faut aller vers. Et c'est très important. Et on a mis en place à Saint-Germain-en-Laye un programme, d'ailleurs, qui s'appelle le projet Axiome. C'est un programme qui va véritablement faire... que on part du binôme homme-maison et de ses interactions, et qui est d'ailleurs la cellule de base de la ville, et on essaye de favoriser l'accompagnement de ces personnes en situation de rupture, de souffrance culturelle, de vivre mieux leur logement avec des ateliers participatifs. En fait, on est dans un dispositif qui est construit autour d'une notion de solidarité et de solidarité et de développement durable, afin que les habitants fassent un petit peu plus quartier, quoi. Et donc, on va être un peu un démonstrateur, peut-être, de ces innovations aujourd'hui. Il ne faut pas regarder les différentes cultures comme une contrainte, mais comme comme une innovation, et l'intergénérationnalité aussi. Alors, ce n'est pas facile, mais on peut imaginer les conséquences à long terme, parce que si on ne fait rien, on va automatiquement aller en 2040, 2050 vers des quartiers, alors qu'on est quand même dans des quartiers un peu sensibles, hein, on risque de se retrouver avec des quartiers où on ne peut plus rien faire. Et donc... Le logement social, c'est quand même une chance pour tout citoyen en France. C'est important, le logement social, même si on n'en a pas assez. Et par exemple, on a mis en place, nous, une charte d'engagement sur les bases du volontariat. Je suis solidaire, j'aime mon logement, pour tout nouveau entrant dans le logement social. C'est vraiment faire prendre conscience que ce logement, c'est quelque chose d'important et qu'il faut l'entretenir et qu'il faut l'aimer. Et à partir de là, si on est bien chez soi, on peut être bien dans l'espace public. En tout cas, c'est une vision.
Merci à Monsieur l'adjoint au maire Paul Joly de ce que vous venez de dire. On a bien compris que les équilibres ne sont pas faciles, que de plus en plus il faudra faire participer en amont les usagers, notamment dans une plus grande inclusion intergénérationnelle, et que les gens dès le départ doivent être solidaires entre eux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir participé ce jour à notre émission. Très bonne journée à vous et à très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.